Radio Kapi.
Ouverture de ce journal du rapatriement du reste du corps du premier premier ministre Patrice Emery Lumumba depuis ce matin dans son territoire national, la RDC. C'est pour une importante tournée qui a commencé déjà par Onaloa, son village natal dans le Sankuru, où l'avion l'a amené déjà ce matin. Non au discours de haine, non à la discrimination, aux attaques des communautés. La justice militaire tape aussi du poing sur la table. Vous suivrez dans ce journal le reportage de Isaac Remoyope depuis Ituri par rapport aux propos de haine et de xénophobie qui s'est multiplié depuis le week-end dernier dans cette partie de la République. Théo Ngwabije Kassi, gouverneur de la province du Sud Kivu, est notre invité que nous recevons en fin de ce journal. C'est pour parler de l'implantation de la raffinerie de l'or dans la ville de Bukavu. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous nous accordez chaque fois pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. Lumumba est de retour au pays. C'est ce mercredi, aux petites heures du matin, que l'avion de Congo Airways transportant les restes de l'ancien premier ministre a atterri à l'aéroport international de Ndjili. C'est pour une longue tournée à travers le pays qui démarre au Sankuru, sa province natale. Des précisions avec Daniel Tambizoni.
L'émotion était forte pour les membres de la famille et la délégation présente. Enfin, Patrice Emery Lumumba est de retour dans son pays. Le commandant de bord de l'aéronef qui porte le nom de l'ancien premier ministre a confié à nos confrères de l'AFP sa fierté d'avoir eu la responsabilité de ramener au pays le héros national. Parmi les personnes ayant accompagné le corps à Kinshasa, on compte bien sûr la famille, des membres du gouvernement, notamment le premier ministre. Le corps prendra ce jour même la direction du Sankuru, sa province d'origine, précisément celle Onaloa, son village natal rebaptisé Lumumbaville. Après le Sankuru, le cortège se rendra à Kisangani puis Lubumbashi pour être conduit à Chilantembo où Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, élevés au rang de grand officier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. La dépouille sera ensuite ramenée à Kinshasa. Trois jours de deuil national seront organisées, puis l'inhumation au mausolée dont les travaux de construction sont pratiquement terminés à la place de l'échangeur alimenté. Le deuil national prendra fin avec la commémoration de l'indépendance du pays le 30 juin. Ce sera le 62e anniversaire.
Toujours par rapport à Patrice Emery Lumumba, prenons ce témoignage de l'historien Mukadi Luaba. Professeur émérite, il a fait partie de la commission constituée lors de la fête du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC pour élucider les circonstances de la mort de Lumumba. Pour lui, Lumumba qui avait été arrêté au Kasaï simplement a été éliminé pour des idées qui visaient l'unification du pays. Le professeur Mukadi Luaba est au micro de François Kadima.
Puisque Lumumba a été arrêté au Kasaï occidental, le gouverneur nous avait demandé d'aller étudier les conditions dans lesquelles Lumumba a été arrêté. À ce temps-là, Lumumba était premier ministre. En tant que premier ministre, il a été suspendu par le président Kasavubu à cause des griefs que le cabinet avait constatés. Mais lui, il n'avait pas accueilli favorablement. Lui aussi, avec son cabinet, avait déclaré qu'il avait suspendu le président Kasavubu. C'était une crise institutionnelle qui avait amené Mobutu à aller vite au campus pour constituer le gouvernement avec les étudiants qu'on a appelés les collèges de commissaires généraux, puisque le pays ne pouvait pas rester sans gouvernement, sinon on nous envahirait. Lumumba, au cours de l'histoire, a reconnu que les idées de Lumumba étaient bonnes. Pourquoi? Parce que il tenait à ce que ce pays soit uni. Raison pour laquelle on l'a déclaré héros national. Il tenait à sauvegarder l'unité de ce pays.
En Ituri, des propos de haine et de xénophobie se multiplient depuis le week-end dernier. On dénombre déjà des victimes, des personnes qui ont été soit agressées, soit menacées à cause de leur morphologie ou appartenance tribale. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cet acte qui alimente les tensions communautaires dans cette province déjà meurtrie par les atrocités des groupes armés. La justice militaire qui s'est déjà saisie de cette affaire exhorte la population à éviter les discours de haine qui sont punis par la loi. Isaac Remoyope.
Au moins 3 personnes sont déjà victimes des discours de haine et de xénophobie depuis le week-end dernier. Selon des sources concordantes, un habitant a été agressé des pieds d'un motin estimé à 1 250 $ vers Wampara, à la périphérie de Bounia. Un autre a été menacé de mort sur la route de Kasenyi à 55 km de Bounia. Et le troisième cas est signalé au quartier Ndibé au chef-lieu de la province. Les auteurs sont notamment des militaires, les accusant d'être des citoyens rwandais. Les chefs des secteurs de Bahema Sud condamnent cet acte qui prend de l'ampleur dans la province. Katalo Takumara.
Militaire sous ivresse. Il a dit au messieurs, cette fois-ci nous sommes contre la morphologie rwandaise et les rwandais. Le militaire voulait ôter la vie de notre frère là et il a été sauvé des justesses. Nous devons bannir les antivaleurs et la haine. Tous on est congolais.
L'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri met en garde les auteurs de cette pratique qui, selon lui, est punissable par la loi. Joseph Makelele précise que sa juridiction est déjà saisie de certains dossiers relatifs au discours de haine.
Tous les ministres publics au courant de ces faits, ils seront sanctionnés par rapport aux actes, par rapport aux conséquences, selon le code pénal militaire.
Les acteurs politiques également s'insurgent contre cette pratique qui limite les mouvements de certains habitants qui ont peur d'être assimilés aux Rwandais. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, lutte contre les discours et messages incitatifs à la haine au Sud Kivu, le maire de la ville d'Uvira a relayé hier le message du ministre national de l'Intérieur mettant en garde la population locale contre ce phénomène qui remet en cause le vivre ensemble entre les communautés. C'était lors d'une réunion du Conseil urbain de sécurité élargie à plus de 300 représentants des mutualités ethniques, des associations membres de la société civile, des confessions religieuses, des services étatiques et cadres locaux. Pour en parler, Fiston Goma.
Plusieurs acteurs représentant les mutualités ethniques vivant à Uvira ont condamné avec leur dernière énergie des discours et messages incitant à la haine qui sont distillés sous les formats audio dans les forats WhatsApp. Les porte-parole et secrétaires de l'association Shikama Banyamulenge d'Uvira, Boss Ndataba et Muyo Boke. Ce message ont insécurisé nos enfants. Même pour passer les examens de fin d'année, ça ne sera pas possible car ils sont déjà affectés moralement. Il y a des chansons qui sont balancées dans les éditions de musique et qui demandent que tous les Rwandais retournent chez eux. Nous ne savons pas pourquoi à chaque fois que les Rwandais agressent le pays, c'est nous qui sommes visés. Je reviens de Goma pour enterrer mon petit frère tué par le M23 sur le champ de bataille, tous des Banyamulenge. Ils se battent pour la patrie. Nous sommes des civils. S'il y a un Banyamulenge dans le M23, il est là pour son propre compte. Il y a des Banyamulenge qui distillent des messages incitant à la haine. Ils sont éparpillés à l'étranger. Nous leur demandons de cesser. Ce message nous cause des ennuis parce qu'ils sont récupérés dans les groupes WhatsApp par d'autres extrémistes pour nous faire du mal. Le maire de la ville a tiré la sonnette d'alarme sur les dangers de ces messages de haine en cette période de crise. Un comité local sera mis en place pour traquer les présumés auteurs en collaboration avec les services de sécurité et la justice. D'Ouvira Fiston Momayaba, la Radio Kapi.
Dans le même sens, l'église catholique de Bukavu invite ses fidèles à la retenue face aux messages de haine propagés ces derniers temps par certaines personnes mal intentionnées. L'abbé Justin Kunzi, directeur de la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, évoque les bonnes relations de fraternité qui caractérisent depuis des décennies les peuples rwandais et congolais. Nous sommes des frères et condamnés à vivre ensemble, martèle l'abbé Justin Kunzi dans cet extrait choisi par Jean Kassami.
Nous devons faire la part des choses et comprendre que nous sommes des voisins naturels avec les Rwandais. Surtout nous de Bukavu avec les amis de Changugu. Nous sommes les deux églises les plus proches au monde des deux pays voisins. Quand une cloche sonne à Bukavu, elle est entendue à Changugu et vice-versa. Nous partageons le même soleil, la même pluie et la même rivière et le même lac. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble, c'est comme ça que le destin l'a voulu. Il ne faudrait pas que les agendas politiques motivés par des ambitions politiques qui nous opposent. Et je ne crois pas que les fusils soient toujours la meilleure solution pour régler un problème. Encore moins la machette, les bâtons ou les couteaux. Et en tout cas, ce n'est pas par un agent de l'église catholique ou même d'autres confessions religieuses que certains voudront manger les piments de leur division dans nos bouches. Ça ne se fera jamais. Simplement, nous regrettons que certains fils de ce pays prennent les armes contre leur propre patrie. Ça n'existe nulle part au monde.
Parlons à présent de la situation sous les théâtres des affrontements entre l'armée et les M23 dans le Nord Kivu. La situation est calme mais très imprévisible ce mercredi dans les groupements de Djomba et celui de Kisigari. C'est dans le territoire des Rutshuru. Ces entités ont été le théâtre des affrontements violents durant toute la journée d'hier entre les FRDC et les rebelles du M23. Les sources coutumières locales donnent un bilan de 13 civils tués. De plus, 8 villages ont été vidés de leurs habitants. Le point avec Bernardin Nyangui.
C'est entre 19h et 21h locales que les dernières détonations d'armes lourdes et de bombardements ont été signalées hier mardi dans la zone de Changi, groupement de Bouéza, où il y a encore une position avancée de l'armée nationale congolaise, indiquent certaines sources civiles et administratives dans la zone. Pour ces sources, les attaques des rebelles sur les villages Bikenge, Changi, Bukima, Ruvumu et leurs environs ont causé d'énormes dégâts humains. Si l'armée a repoussé cette attaque dans quelques ans de ces villages après une brève occupation des rebelles, nos sources indiquent que certaines de ces localités seraient encore occupées partiellement par les M23 depuis hier soir. C'est entre autres Ruvumu, Buaro et Rutokara, en groupement de Kisigari, où, selon les sources coutumières locales, au moins 13 civils ont été tués alors que plusieurs autres qui n'ont pas pu fuir, restent enfermés par l'ennemi dans leur maison. Ces sources craignent que ses habitants ne soient utilisés comme bouclier humain par les rebelles en cas d'une réplique de l'armée nationale. Rappelons que mardi était le troisième jour consécutif des affrontements entre les FARDC et les rebelles du 1-23 qui occupent pour l'instant une majeure partie des groupements de Jomba, Busanza et Bouza, y compris la frontière de Bunagana. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
En rapport toujours avec cette nouvelle, la situation humanitaire se dégrade davantage depuis les trois derniers jours à la suite d'affrontements opposant les FARDC au M23. La situation est décriée par les natifs du territoire des Rutshuru. Pour ces derniers, le territoire enregistre chaque jour des nouveaux mouvements de déplacés, alors que des cas de meurtre des civils se rajoutent maintenant au bilan de cette guerre. Un reportage de Bernardin Nyangui rendu ici par Mathieu Ilunga Chambouyi.
Après le groupement Jomba, Busanza et Bouéza, qui sont déjà vidés à plus de 90% de leur population, un notable du territoire de Rutshuru déplore que ces affrontements frappent depuis hier mardi le groupement de Kisigari. Dans cette zone précise, la situation des familles déplacées reste inquiétante, aussi bien à Rutshuru qu'en Ouganda. Ce n'est pas tout. Des exécutions sommaires des civils attribuées aux rebelles du M23 font légion pour terroriser la population. Ernest Seng Goma.
C'est tous les groupements, Kisigari et Bouéza, qui subissent les affres de la guerre. Maintenant, nous avons déjà comptabilisé plus de 13 morts. C'est pour moi l'occasion de venir demander véritablement à la MONUSCO de protéger les populations civiles, parce qu'il y a notamment des exécutions sommaires au motif que la population collaborerait avec les FARDC.
Dans son rapport humanitaire du 14 juin dernier, OCHA comptabilisait déjà 345 000 personnes déplacées consécutivement à 10 épisodes d'affrontements entre janvier et mai 2022 dans les territoires de Rutshuru. Selon le même rapport, OCHA précise que pour cette année, les acteurs humanitaires ciblent environ 172 000 personnes dans ces territoires. Goma, Mathieu Ilunga Chambouya, Mwana TV, Radio Okapi.
Parlons de cet autre cas d'insécurité toujours dans le Nord Kivu. Trois personnes tuées et d'autres portées disparues, c'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux combattants de l'ADF la nuit dernière au quartier Mabasele d'Oicha. Cette commune rurale est le chef-lieu du territoire de Beni. L'administrateur du territoire assure que les dispositions ont été prises pour sécuriser la zone. Le port des tenues qui s'apparente à celle des policiers ou des militaires par des tiers est prohibé. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur l'a fait savoir lundi dernier sur la chaîne nationale. Daniel Asselo a à cette occasion demandé aux partis politiques dont l'UDPS et l'UNAFEC, dont les jeunes arborent ce genre de tenues, de mettre fin à cette pratique qui les expose à des poursuites judiciaires. Comment cette mesure a-t-elle été accueillie par les concernés? Jean Gando nous en parle.
Le port de ces uniformes par les jeunes de ces partis politiques est souvent remarquable lors des manifestations publiques, au point de créer de confusion au grand étonnement de plusieurs personnes. Pour Eric Ndala, président fédéral de l'UNAFEC dans le Haut-Katanga, son parti s'est déjà mis au pas pour l'exécution sans faille de la mesure prise par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Chez nous à l'UNAFEC, cette mesure est bien perçue et nous avons communiqué aussi à nos combattants et combattantes que vous allez constater sur la ville, il n'y a pas de tenue qui ressemble à la tenue militaire portée par nos jeunes. Donc, nous continuons la sensibilisation. Je demanderai à tous les combattants de déplier la tenue qui ressemble à la tenue militaire et de se conformer à la mesure du VPM.
À l'UDPS, on appelle tous les jeunes à se conformer à cette décision. Dani Kabongo, responsable de la jeunesse.
Je demande à tous les jeunes de l'UDPS d'obéir totalement aux mesures prises par les ministères de l'Intérieur. Et s'il y a un jeune de l'UDPS qui va désobéir, et quand il sera frappé par la loi, il s'apprendra qu'à lui-même.
À la Commission nationale des droits de l'homme, bureau de représentation du Haut-Katanga, on estime que cette mesure est tombée à propos, mais tardivement, car les bévues n'ont que trop duré et que la loi a été longtemps bafouée par ses formations politiques. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les prix à la consommation en Afrique du Sud sont au plus haut depuis 5 ans, bondissant de plus de 6,5% en mai par rapport à la même période en 2021, au-delà de la fourchette fixée par la Banque centrale selon les statistiques officielles publiées mercredi. Il s'agit du résultat le plus élevé depuis janvier 2017, lorsque le taux était de 6,6%, a indiqué l'Agence gouvernementale des statistiques dans un communiqué. Le taux était à 5,9% en mars et avril. La Banque centrale de la première puissance industrielle d'Afrique veut maintenir l'inflation dans une fourchette de 3 à 6%. L'institution financière a relevé son taux d'intérêt de référence à plusieurs reprises ces derniers mois en raison d'une hausse persistante des prix. Le président tunisien Kais Saied a appelé mardi le Fonds monétaire international FMI à tenir compte des conséquences sociales sur la population tunisienne des réformes dont il réclame la mise en œuvre dans le cadre d'un éventuel prêt à son pays. La Tunisie en proie à une grave crise politique et financière qui a empiré après le coup de force de Kais Saied en juillet 2021 a entamé des discussions préliminaires avec le FMI pour obtenir un nouveau prêt. Le FMI a réclamé en contrepartie des réformes profondes.
L'invité.
Le gouverneur de la province du Sud-Kivu salue l'implantation de la toute première raffinerie d'or en RDC construite à Bukavu. Pour le chef de l'exécutif provincial, cette usine, une initiative des opérateurs économiques privés, permettra de lutter sensiblement contre la fraude minière, surtout dans le secteur aurifère. Théo Ngwabije Kassi s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour madame.
La ville de Bukavu sera dotée de la toute première raffinerie d'or de tout le pays. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle?
Une grande satisfaction pour la province, mais aussi pour le pays. Saluer aussi les efforts de ces grands opérateurs économiques, M. Karim et son entreprise, d'avoir répondu au fait à un besoin pour cette province. Que vous n'ignorez pas que la province d'ici de Kivu est une province qui regorge beaucoup de minerais et surtout de l'or.
Est-ce que vous pensez que ce projet permettra enfin de lutter contre la fraude minière qui gangrène le secteur aurifère dans la région?
Je suis convaincu, puisqu'en fait, vous savez, les opérateurs économiques ont toujours évoqué le problème qu'on n'a pas une raffinerie. Aujourd'hui, ça sera un problème résolu. Donc, nous pensons que les opérateurs économiques qui sont patriotes, qui sont corrects, n'ont plus de raisons de continuer à frauder, puisqu'au moins aujourd'hui, nous avons... cette usine qui répond vraiment aux normes internationales et surtout la haute technologie. Nous venons de faire le tour, c'est une usine qui a été montée avec toutes les caractéristiques possibles. En tout cas, tout a été respecté. Donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui de faire la fraude. Malheureusement, il y en a d'autres qui vont persévérer dans cette fraude-là. Et nous allons lutter. Nous allons continuer à lutter contre la fraude, puisqu'il n'y a plus de raison aujourd'hui.
Beaucoup s'interrogent encore par rapport aux normes environnementales. Est-ce que vous pensez que cette usine, construite en plein centre-ville, permettra en tout cas de respecter l'environnement?
Nous avons reçu les explications du directeur adjoint de cette entreprise, il nous a rassurés. Tout est prévu, effectivement, pour effectivement respecter les normes environnementales. Donc, moi, je suis très convaincu qu'effectivement, ces problèmes ne vont pas se poser.
Une très bonne nouvelle aussi pour la province en termes de création d'emplois. Combien est-ce que d'emplois peuvent être attendus? Des emplois, bien sûr, congolais peuvent être attendus grâce à cette usine.
Déjà que l'entrepreneur nous a assuré que ça a été fait par les Congolais. Donc c'est vrai que le machine et tout le reste vient de pays étrangers, mais l'usine a été montée grâce à la main-d'œuvre. Et puis la raffinerie, il y aura des emplois. Donc je ne peux pas quantifier le nombre, mais je sais que ça va booster sur le plan de la création de l'emploi.
Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes vraiment de plus-value que cette usine pourra apporter pour la province que vous dirigez?
Vous savez, je crois que vous couvrez depuis de longues années ces questions des mines. On a beaucoup parlé, mais il nous manquait des infrastructures et nous avons une raffinerie aujourd'hui. Nous pensons qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons une évasion terrible sur le plan d'exportation de l'or. Vous voyez les chiffres minables que nous présentons aujourd'hui, pendant que le pays voisin aligne des chiffres astronomiques. Je ne sais pas les chiffres, mais c'est plus de 50 à 100 fois l'or qui est envoyé à l'étranger. Donc le fait d'avoir cette usine ici dans la province d'ici de Kivu, nous pensons et nous espérons que les rapports vont être renversés. On pourrait avoir maintenant de l'or qui est dans les secteurs formels. Au lieu que nous puissions avoir de l'eau qui passe dans des circuits qui sont opaques, on pourrait avoir de l'or maintenant qui est tracé formellement. Et il y aura effectivement, si l'or est tracé formellement, c'est qu'il y a des revenus pour l'État et au niveau de la province et au niveau national. Mais aussi, ça va être un boom économique pour les opérateurs économiques qui sont dans les secteurs orifères. Donc, on va aller dans une vision où on a effectivement une exploitation légale. Voilà.
D'exploitation industrielle aussi.
Oui, l'usine est là. Ça veut dire demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut faire le même travail. Nous espérons demain qu'il y aura des opérateurs économiques qui vont aussi installer maintenant des grandes usines au niveau des centres d'exploitation. C'est important.
On est vraiment dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut actuellement vraiment qu'il y ait une transformation locale des minerais.
On n'aurait pas eu cette usine si lui-même le chef de l'État n'a pas beaucoup intervenu. Donc je me rappelle quand M. Karim est venu nous rencontrer, moi et le vice-gouverneur, nous avons posé ce problème au niveau national et le chef de l'État a appuyé. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, à travers ces images, il va voir qu'effectivement, contrairement à ce que les gens racontent, la province est tentée d'avancer et le pays avance dans un secteur qui doit rapporter effectivement à la population, tout comme à ceux qui sont dans les secteurs.
Monsieur le gouverneur, je vous remercie.
Je vous en prie.
Voilà comment se referme cette édition du journal sur Radio Okapi. Merci d'avoir été des nôtres.